Europe 1.
17h, 18h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour et bienvenue sur Europe 1, c'est parti pour Clap, votre rendez-vous cinéma du week-end. Nous sommes ensemble pendant une heure pour échanger autour du cinéma qui se porte bien pour notre plus grand bonheur. Dans la première partie de Clap, nous ferons le tour de l'actualité du cinéma avec en tête des news qui font d'ailleurs bien plaisir, le film Simone qui a franchi le cap des 2 millions d'entrées. Didier Alouche nous dira tout ce qu'il faut savoir des nouvelles du cinéma mais du côté d'Hollywood. Et puis à 17h20 à peu près, j'aurai le plaisir de recevoir un acteur aussi à l'aise dans des comédies comme La vérité si je mens que dans des films d'auteur comme Le couperet. Je parle bien sûr de José Garcia, il sera aux côtés d'André Dussolier à l'affiche du Torrent. Enfin, pour débattre de l'actualité cinéma, j'ai le plaisir cette semaine de retrouver mon binôme, Franck Vallière, toujours en forme.
Et oui, un peu frisqué quand même. Hein.
Et qui est face à un nouveau venu, une nouvelle voix dans cette équipe. Vous la connaissez déjà sûrement, celle du journaliste Mehdi Omaïs. Bonjour Mehdi.
Bonjour, je suis heureux d'être là.
Mais nous aussi, on est ravis de vous avoir à nos côtés. Bienvenue dans Clap, est-ce que vous avez un coup de cœur cette semaine?
Ah bah oui.
Lequel? Est-ce qu'on peut le dire?
Vas-y.
Ah bah moi c'est mes rendez-vous avec Léo.
Ah bah on est d'accord alors. Ah bah
déjà vous êtes d'accord. Bon peut-être qu'il y aura d'autres débats, ce sera en fin d'émission.
Bah il y a encore beaucoup de films cette semaine.
Oui, il y a Nicolère. Bon il y a plein de choses. On vous dira tout en dernière partie. Voilà pour le programme de Clap qui commence maintenant.
Europe 1, 17h, 18h, Clap.
Ah bah oui, c'est vrai.
Oh, commissaire, hein? Détendez-vous.
Ah oui.
Vous allez vous réveiller.
Je vais me réveiller et je vais tout comprendre.
Mais oui, commissaire, vous allez tout comprendre. Et nous aussi.
Buvez.
Qu'est-ce que c'est ça?
Un petit somnifère.
Mais non.
Si.
Mais non, puisque je dors et je vais me réveiller.
Et la voix de Mylène de Mongeau, inoubliable Hélène, fiancée de Jean Marais dans Fantomas, grande figure du cinéma populaire. On démarre ce tour d'horizon donc de l'actualité cinéma avec cette triste nouvelle, la disparition ce 1er décembre de l'actrice Mylène de Mongeau à l'âge de 87 ans des suites d'un cancer. Alors petit retour en arrière, c'est à l'âge de 21 ans que Mylène fut révélée au grand public grâce au personnage d'Abigail dans le film de Raymond Rouleau, Les sorcières de Salem. Un film fondateur pour elle qui lança sa carrière aux côtés de deux prestigieux partenaires. Immense star de l'époque, évidemment, Yves Montand et Simone Signoret.
Les juges vont essayer une dernière fois de le faire parler. C'est notre devoir d'être présente et d'aider la justice.
Vous êtes un bon citoyen, Maître Putnam. Que pensera la cour si elle apprend que vous détournez votre fille de son devoir?
Alors un an plus tard, Mylène de Mongeau confirme sa célébrité naissante grâce à son rôle dans Bonjour Tristesse d'Otto Preminger, d'après Françoise Sagan.
Mon agent m'appelle en me disant « Preminger veut te rencontrer pour t'offrir un rôle dans Bonjour Tristesse ». Je dis à Preminger, dès qu'on s'est présenté, je vois pas pourquoi vous m'avez fait venir, parce que, un, je parle pas anglais, deux, je suis pas une actrice comique, et je vous fais perdre votre temps, alors, avec ça. Il m'a dit, bon, ben, ça va, c'est vous. Il m'a pris, il m'a engagé.
Et puis, évidemment, lorsqu'on pense à Mylène de Mongeau, on pense à la série des Fantomas, aux côtés de Louis de Funès et Jean Marais, 3 films et 12 millions d'entrées qui lui apporteront une immense notoriété et une grande popularité. Et puis, autre succès plus récent de la carrière de Mylène de Mongeau, la série des Campings, où elle formait avec Claude Brasseur un couple attendrissant et drôle. Laurette et Jackie Pic, farouchement attachés à leur emplacement 17.
Qu'est-ce qu'il y a, Jackie?
Il te perd en bas des tétons, maman, on rentre sur Melun, les vacances sont finies. Ok, maman, j'attends de voir la Mercedes. Mais je te préviens, je ne mets pas le haut vent. Je ne mets pas le haut vent parce que pour moi, demain, on est en face.
Mais tu ne mets pas le haut vent, tu ne mets pas le haut vent, Jackie, qu'est-ce que je te dis?
Tu ne vas pas me laisser marcher dessus par des Allemands, non?
C'est des Hollandais, Jackie.
C'est pareil.
Alors une carrière riche et éclectique, de Sois belle et tais-toi à 36 Quai des Orfèvres, en passant par les Trois Mousquetaires ou encore Tendre Voyou. Et puis tout récemment, on avait pu apprécier Mylène dans un autre film populaire, Maison de retraite, aux côtés de Kev Adams et Gérard Depardieu. Comédie qui a atteint en février dernier les 2 millions d'entrées.
Le petit s'est fait casser la gueule hier soir.
C'est un petit con, bien fait pour lui.
Non, faut l'aider, il est orphelin, comme nous.
Je vous revaudrai ça.
Arrête de croire que quand les gens font quelque chose, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose en retour.
Et nous, on est orphelins aujourd'hui de Mylène de Mongeau, qui était une actrice simple, engagée, notamment pour la cause animale, sensible et populaire, et qui, en presque 70 ans de carrière, aura eu le talent de conquérir le cœur de plusieurs générations de Français. Elle là, c'est évidemment plein d'émotions hein, qu'on réécoute à chaque fois cette chanson. Vous aurez reconnu donc la célèbre musique du compositeur Ennio Morricone, à qui l'on doit les plus belles bandes originales du cinéma. Le Professionnel, Il était une fois dans l'Ouest, Le Bon, la Brute et Le Truand, Le Clan des Siciliens et tant d'autres. Alors si je vous passe cette musique d'Ennio Morricone, c'est parce qu'un concert exceptionnel va avoir lieu le 6 décembre à l'Accor Arena à Paris en hommage au célèbre compositeur. Un concert qui a été imaginé et conçu par Ennio Morricone lui-même avant son décès, avec des scènes de films emblématiques. Et donc ce sera sous la direction de son fils Andrea Morricone et on pourra réécouter tous les plus grands succès d'Ennio Morricone. Est-ce que vous avez, Mehdi ou Franck, une musique en tête préférée d'Ennio Morricone, une bande originale de film?
C'est comme si on allait au Louvre et que vous me demandiez c'est quoi mon œuvre préférée. Mais j'en ai quand même trois. Il était une fois en Amérique, Mission et Cinema Paradiso, évidemment.
Ah, magnifique, oui.
Ouais. Cinema Paradiso. Moi, j'ai une fascination pour la période Bossa 68-72 de Morricone, que lui détestait parce que c'était l'époque où il n'était pas du tout connu, il fallait qu'il vive, etc. Il faisait de la bossa nova. Il déteste cette période, la femme invisible, sur des trucs absolument voluptueux avec Edda de Lorso en soprano, c'est sublime. Mais malheureusement, c'est jamais fait en concert.
Non, c'est vrai. Alors, autre actualité hein, qui nous fait bien plaisir, je le disais il y a quelques instants, c'est le cap des 2 millions de spectateurs franchis pour le film Simone.
Comment définir la mémoire? Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes responsables de ce qui nous unira demain.
Simone!
Alors, on est vraiment content hein, pour ce biopic signé Olivier Dahan avec Elsa Zilberstein, qui a donc initié le projet. Elle le dit, hein, il fallait un grand film pour cette grande dame. Eh bien, Elsa lui a offert ce film, un film bouleversant sur le parcours de Simone Veil, sa déportation, sa résilience, tout ce parcours qui l'a mené à faire de grandes choses, dont la loi Veil en faveur de l'avortement. C'est un film sur tous les combats qui ont jalonné la vie de Simone Veil. À tous les deux, déjà, qu'est-ce qui vous touche le plus dans Simone Veil? Qu'est-ce que ça évoque pour vous?
Dans le cadre de ce film, je trouve que c'était nécessaire de faire ce film sous cette forme. Beaucoup de critiques ou journalistes avaient estimé qu'il aurait fallu faire un film beaucoup plus, entre guillemets, digne. Or, c'est un film qui se veut vaste et populaire.
Bah, c'est une grande fresque, hein, c'est une épopée.
Absolument, et il fallait faire ça pour que notamment les scolaires s'en emparent. C'est d'ailleurs sans doute pas un hasard si le film atterrit seulement maintenant à 2 millions, alors qu'il était parti, disons, assez mollement. Je pense que les scolaires qui étudient Simone Veil en 3e notamment se sont emparés du film. Et il faut reconnaître que c'est un film certes très populaire, qu'il y aura sans doute plusieurs films à faire sur Simone Veil.
Mais moi, au-delà du film en lui-même, de l'histoire, c'est le succès. C'est ça qui est beau, 2 millions d'entrées. Mmh. Il y a eu 2 millions d'entrées pour novembre. Il y a des films qui cartonnent en salle. L'Innocent, Revoir Paris il y a quelques temps, Mascarade. Donc c'est la bonne santé du cinéma français qui est là et ça fait plaisir.
Tant que vous allez dans les salles de cinéma, vous savez, nous, ici à Europe 1, chez Clap, nous sommes très heureux. Alors enfin, mercredi a été remis le prix Louis Deluc. C'est un peu, en gros, le prix Goncourt du cinéma. C'est un prix qui a été créé en 1936. Et cette année, le jury, donc composé de journalistes et de critiques, n'a pas réussi à trancher, Franck.
Alors, il faut savoir que cette année, il y a une petite différence. Parce que d'habitude, c'est tous les films d'auteurs de l'année, les films français. Mais en fait, là, ils ont restreint dans leur charte cette année des films qui sont sortis de septembre à décembre. Pourquoi ? Pour que les gens, une fois qu'ils ont élu ces films, puissent aller les voir en salle. Mmh. Et en fait, comme l'idée de se dire, bon, bah, tant qu'à faire, puisque les gens vont pouvoir le voir, on ne va pas nommer un film, mais deux films. C'est donc Saint-Omer d'Alice Diop qui a été ex aequo, avec Pacifixion d'Albert Serra, deux films que l'on peut voir en ce moment en salle, qui sont considérés comme les meilleurs films de l'année par la critique française.
Et d'ailleurs, avec Mehdi, on a beaucoup aimé Saint-Omer et on vous encourage à y aller parce que c'est compliqué les entrées pour Saint-Omer. Je rappelle que c'est le film qui va représenter la France aux Oscars. C'est aussi le film qui a reçu deux prix à la dernière Mostra de Venise, le Grand Prix et le Prix du meilleur premier film. Et c'est vraiment un film qu'il faut découvrir au cinéma.
Absolument, ça a l'air un petit peu dur à prime abord puisque ça parle d'un infanticide. Mais la manière, le dispositif de mise en scène, c'est peut-être un peu rêche au départ, mais quand vous rentrez dedans, c'est l'émotion, c'est le regard de cette actrice incroyable, des deux actrices. Et vraiment, n'ayez pas peur du sujet.
Bon, et maintenant, sortez vos passeports. Didier Alouche vous emmène à Hollywood. Voici son JT.
Europe 1.
Clap. Le JT d'Hollywood. Didier Alouche.
Salut Laurie, salut à tous. Et si Netflix était le sauveur des salles de cinéma? C'est une question étrange, je vous l'accorde. Mais vu ce qu'il s'est passé ce week-end chez moi, ce n'est pas une question si bête que ça. Je m'explique. Vous le savez, à part les énormes films style blockbuster Marvel, plus grand-chose ne marche ici. Les Fabelmans de Spielberg n'attirent pas grand monde, les films à Oscar se prennent bide sur bide, même le dernier Disney, Strange World, a pris le bouillon. Bref, plus rien ne marche, sauf que le classement du box-office cette semaine dessine peut-être le futur. En tête, il y a bien entendu Wakanda Forever avec plus de 45 millions de dollars en troisième semaine et plus de 367 millions de dollars de recettes depuis sa sortie. De ce côté-là, c'est normal, rien à dire. Deuxième donc, le Disney Strange World, 18 millions en 5 jours, en plus de 4000 salles, c'est bien peu. Et en troisième, un film qui ne devrait pas être là. Ce film, c'est Glass Onion, la suite de À couteau tiré, Wooden It pur et dur. Un film Netflix, le premier film Netflix qui connaît une vraie sortie salle. Certes, Netflix a déjà sorti quelques films à Oscar, mais dans jamais plus d'une dizaine de salles. Glass Onion est sorti dans 696 salles et ça cartonne. 13,5 millions de dollars en 5 jours, une impressionnante moyenne par salle. Et si ça devenait le nouveau normal? Et si Netflix devenait un studio comme les autres qui sort ses films en salle? Et s'il devenait les meilleurs amis des exploitants de cinéma en Amérique? Ça pourrait tout simplement tout changer. Bon, on n'en est pas encore là, c'était un one-shot, le studio le précise volontiers, mais il n'y a rien qui fait plus changer d'avis que le succès. Alors ?
Merci beaucoup Didier, ne bougez surtout pas dans un instant, José Garcia sera à mes côtés dans le studio. A tout de suite sur Europe 1.
17h, 18h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être avec nous à l'écoute d'Europe 1, c'est la suite de Clap et j'ai le plaisir de recevoir cette semaine celui qui joue au chat et à la souris avec André Dussolier dans Le Torrent d'Anne Lenis et José Garcia. Merci d'être avec nous José.
Bonjour Laurie.
Bonjour. Alors dans Le Torrent vous êtes Alexandre, vous avez une fille de 18 ans d'un précédent mariage et vous vivez avec votre nouvelle femme et votre petit garçon. Mais un jour votre femme est retrouvée sans vie et très vite pour vous sauver de tous les soupçons, vous allez vous enfoncer dans le mensonge. C'est un scénario original, hein, d'Anne Lenis, captivant. On sait tout dès le début et pourtant, on est happé par cette histoire. Qu'est-ce qui vous a séduit, José Garcia?
Bah exactement ce que vous venez de dire. Non, bah ce qui est très intéressant, c'est que j'avais fait un film avec Costa Gavras il y a des années qui s'appelait Le Couperet, et dans lequel le public se disait « Mon Dieu, vous êtes épouvantable, vous êtes super inquiétant et tout ». Et je leur disais « Mais non, je me bats pour garder ma famille et je considère que le travail étant le centre de ma famille, et ben voilà, je me bats pour garder mon travail. Et de tuer des gens, ça me paraît logique, c'est une histoire de survie. » Et en fait, je n'avais jamais exploité le fait de manipuler ma famille. Je me suis dit, qu'est-ce que ça doit être? Ça doit être terrible, parce que moi je suis quelqu'un dans la vie plutôt qui prend les choses à bras-le-corps. Mais là, je me disais qu'un type justement qui était censé prendre ses affaires à bras-le-corps, c'est un type qui était dans la réussite, vraiment qui tout d'un coup, par peur de tout perdre, par beaucoup d'inquiétude en fait, par lâcheté, commencer à prendre sa fille aînée qui n'a pas vraiment valorisé pendant des années et pour la prendre vraiment sous son aile et essayer de s'en sortir. C'est assez difficile à faire, mais c'est très excitant parce que c'est de la manipulation et je trouve que les personnages qui ont ça à jouer partout, dans tous les registres, sont toujours super intéressants.
Mais c'est vrai que la psychologie de ce personnage, elle est quand même assez intéressante parce que, bon, c'est pas vraiment un salaud, mais il est pas vraiment très aimable non plus. Il est un peu autocentré, égoïste, peut-être un peu prétentieux aussi. Mais pas foncièrement mauvais non plus. C'est ça aussi qui nous tient en haleine, hein, nous spectateurs, parce qu'on ne sait pas quoi penser de lui en fait.
Anne voulait que souvent même Costa c'était pareil. Il me demandait de venir parce que les gens ont de l'empathie pour moi. Oui. En fait, ce qui l'intéressait, c'était de voir jusqu'à quel moment les gens allaient accepter ce que je faisais, parce que c'est des horreurs. Mais en même temps, elles sont dissimulées, elles sont petites, et on se dit tiens, le type il est sympathique. Et oh, quand même, il fait ça, c'est pas évident. Jusqu'à quel moment les gens vont accepter le code. Et non, c'est pas un type sympathique, mais c'est en fait ce qui est très joli, c'est que Anne Lenis, elle écrit sur les rapports entre les gens, sur l'humanité, et l'humanité n'est pas forcément glorieuse. C'est ce que je dis souvent pendant cette promo. Si vous êtes là, vous et moi, ici sur ce plateau, c'est que plein de nos ancêtres ont pris la fuite quand un problème est arrivé, parce que c'est sinon, vrai. Voilà, on serait tous morts. Non, mais voilà, ça commence sur les bêtes féroces et puis ça finit sur des guerres, sur des choses comme ça. Donc le héros existe surtout au cinéma, mais dans la vie, il s'arrange un peu avec la réalité.
C'est plus compliqué.
D'après le légiste, elle était morte depuis 2 heures quand son corps a été emporté par le torrent. Madame Boiron a fait une chute mortelle qui n'a rien à voir avec les inondations.
À partir de maintenant, tu parles plus à personne. T'as rien vu, rien entendu. Je veux pas que tu sois impliqué.
Homicide. Mon Dieu. On sait pas ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il y a une enquête. Alexandre, vous êtes d'accord ?
J'adore André Dussolier.
Il a une belle voix.
Il a une super voix. Et alors, il joue donc le père hein, de votre femme qu'on a retrouvée morte. Alors, au démarrage, c'est d'ailleurs assez troublant parce qu'il vous voit un peu comme le beau-fils idéal. Il vous remercie même pour cette belle vie que vous lui avez offerte. Et puis, très vite, il va se dire, il y a quand même quelque chose qui cloche.
Oui, c'est un père, lui aussi. Mmh. Il a perdu sa fille. En fait, on voit vraiment deux façons, deux pères différents. Est-ce que l'amour est inconditionnel ? C'est ça la grande question du film. Est-ce que dans votre famille, si on vous demande d'enterrer des cadavres, vous faites vraiment la bonne action ? Voilà. Et tout le personnage, le vrai personnage central du film, c'est Capucine Valmarie qui joue ma fille.
Qui est formidable.
Parce que la pauvre, elle est compressée dans ce monde d'adulte, alors que c'est une jeune adulte qui arrive dans la vie et qui se fait mais malmenée de partout et qui subit une espèce de pression qui est intenable.
Oui, et puis elle veut juste plaire à son père, que vous interprétez. En même temps, peut-être qu'elle va trouver aussi un père de substitution avec André Dussolier, qui lui vient de perdre sa fille. Donc, oui, il y a vraiment quelque chose sur la filiation, sur la paternité.
Oui, et la manière dont il faut agir, et quelquefois c'est pas la meilleure. En fait, André agit aussi d'une manière qui est un peu forte, mais
en même temps, voilà.
Oui, oui, oui. Non, mais c'est ça, c'est que tous les personnages, c'est que des jeux de rôle, en fait. Personne n'est vraiment placé au même endroit et se décale. Dès que vous avez la tête tournée, il s'est décalé d'un mètre.
C'est ce que je disais, hein, le tour de force, c'est que dès les premières minutes, on sait tout, mais quand même, pendant tout le film, et puis il y a même des moments où on se dit, mais attends. Est-ce que j'ai bien vu ? Est-ce que... Enfin voilà, on se pose pas mal de questions.
Parce que en fait, le thriller est simplement la forme. Mais en fait, Anne Leni, elle est complètement passionnée toujours par les rapports humains. C'est ça qui prime.
Elle joue le commissaire de police, hein, d'ailleurs, dans le film.
Oui.
Alors, comment vous avez travaillé justement avec Capucine Valmarie, donc, qui joue votre fille ? Comment ça s'est passé, cette rencontre ?
Formidable, d'abord parce qu'elle est d'ailleurs copine et elle a l'âge d'une de mes filles. Donc je sais quelle est la pression. C'est marrant, il y a des générations comme ça d'enfants qui arrivent et ils ont une crainte totale de ce monde. Et elle l'incarne très très bien, en fait. Elle arrive ils arrivent dans ce monde, déjà ils sont apeurés, atterrés, tous les angoisses. Et là, c'est horrible, quoi, parce qu'elle se retrouve dans une situation qui est encore pire que ce qu'elle imaginait. Mais c'est très difficile, surtout pour une jeune actrice comme ça, de se réinventer toutes les 5 minutes, parce qu'elle reçoit un nombre d'informations et un nombre d'événements qui sont très difficiles à traiter, en fait, c'est complexe. Je préfère manipuler, moi. J'ai plus de ressources, vous voyez.
On sent que vous avez pris votre pied, hein, José Garcia, à manipuler.
Ah, moi, je pourrais faire un très bon Caligula, des petites crapules formidables, House of Cards, des choses comme ça, j'adore.
Oui,
c'est des personnages qui sont complètement...
Oui.
Vous savez, là, en l'occurrence, c'était un travail sur la peur. La peur, elle vous fait faire des choses. Moi, c'était un spectre que j'avais jamais vraiment utilisé. Et la peur peut vous emmener dans des situations absolument démentes. Elle vous enfonce tranquillement et plus vous enfoncez, plus vous rattrapez de manière instinctive, ce qui fait que vous faites des choses terribles.
Oui, c'est ça qui est très très jouissif dans le film, c'est de le voir quand même s'empêtrer dans son mensonge et d'aller toujours plus loin.
Mais vous savez, c'est le problème, on a eu plein de cas malheureusement d'assassins qui étaient à l'écran, qu'on en voyait, enfin il y a eu plein d'affaires avec l'assassin qui est au milieu même du père, de la mère, qui est à l'enterrement, qui pleure.
Jonathan Daval.
Mais oui, c'est monstrueux, c'est-à-dire que moi quand je voyais ça, je me suis dit mais c'est... Oh, le corps est broyé là-dedans, dans cette espèce de mensonge, c'est dément.
J'y arrive pas.
Comment ça ?
Ces gens, les parents de Juliette, ils sont trop malheureux, c'est affreux.
Ouais, c'est dur, très dur.
Et nous on est là à leur mentir. Je peux pas faire ça, je n'y arrive pas.
Écoute, Lison, c'est très dur pour moi aussi. Je suis obligé, j'ai pas le choix. Faut juste que tu tiennes jusqu'à l'enterrement, et après tu les reverras plus jamais.
Mais même quand ils seront partis, je vais devoir continuer à mentir. C'est pour toujours maintenant, avec tout le monde.
Mais non, pas avec moi.
Et c'est le problème du mensonge, hein. C'est pour toujours. Est-ce que vous mentez dans la vie, José Garcia ?
Oui, oh là là, comme un arracheur de dents.
C'est vrai.
Mais pour arranger.
Des petits mensonges alors.
Des petits mensonges. Mais non, mais de toute façon, je veux dire une chose. Il y a des questions philosophiques, vous savez, il vaut mieux être avec quelqu'un qui dit tout le temps la vérité ou quelqu'un qui ment. Évidemment qu'il vaut mieux être avec quelqu'un qui ment. Parce que quelqu'un qui dit tout le temps la vérité, il assène ses vérités. Il vous tue sur place, alors qu'en fait, c'est pas forcément ça la vérité. La difficulté, c'est de savoir où est la vérité là-dedans et où est surtout le jugement, quoi. Mais non, le petit mensonge, on en fait tous et c'est ce qui radoucit la vie. Voilà, c'est
quoi,
vivre socialement.
Le pire mensonge que vous ayez pu entendre ?
Le pire mensonge ? Enfin, moi, quand je regarde le journal télévisé, je vois 2000 mensonges à la seconde. Je veux dire, c'est un foutage de gueule total depuis très longtemps. Donc, l'inspiration, si vous voulez, elle est à portée de main.
Mais si on dit qu'il faut aller voir Le Torrent le 30 novembre, ça c'est pas un mensonge.
Non, d'abord parce que ça sort le 30, donc en fait c'est vous vrai. Avez déjà un point de vue, une vérité, et vous savez qu'un petit mensonge c'est déjà un bout de vérité que vous arrangez, donc voilà. Vous savez très bien mentir vous aussi.
Hein. Moi je suis un peu obligée aussi, oui c'est vrai, de temps en temps. Mais là je mens pas, je le défends avec bon cœur, parce que j'ai vraiment aimé ce film, et c'est vrai qu'on aime bien vous voir dans ce registre. Je vous avais adoré dans Le Couperet, d'ailleurs vous aviez été nommé au César. Et là, effectivement, de vous voir dans ce registre, on aime beaucoup, même si on aime aussi vous voir en Serge Benhamou ou autre. Hein.
C'est autre chose, c'est mes distractions.
Voilà. Qu'est-ce que vous préférez, vous ? Que vous pourriez choisir ?
Oh, les deux sont formidables. Les deux. De toute façon, quand j'ai commencé, que j'ai eu de la chance de pouvoir faire des films et que j'étais bancable, comme on dit, à chaque fois que je faisais une comédie, je faisais deux films d'auteur. Voilà. Donc c'est un très très bon équilibre, tant que j'aurai la chance de pouvoir continuer à faire ça.
Et pourquoi ce ratio ? Parce que généralement, les films d'auteur, ça puise finalement encore plus. C'est un peu plus lourd à faire, non ?
Non, c'est du repos.
C'est la comédie.
C'est du repos, oui. Ouais. Ouais, c'est la comédie qui épuise le plus, oui. Parce que nerveusement parlant, vous êtes tout le temps obligé de garder le rythme, de bondir tout de suite sur quelque chose qui peut être drôle ou pas. Et si vous passez une scène et qu'il n'y a rien de drôle dedans, c'est épouvantable.
Et José Garcia, on va vous retrouver dans le film Événement de 2023, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet, avec Gilles Lellouche dans le rôle d'Obélix. Ça va sortir le 1er février. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Vous jouez qui ?
Ah ben, je ne sais pas trop, mais écoutez, je fais Biopix, qui est le biographe de César, de Vincent Cassel. Voilà.
Biopix. Et ça s'est bien passé, le tournage ?
Exceptionnel. Mais franchement exceptionnel d'abord, parce que vous savez, maintenant on se retrouve tous que sur les tournages, quoi. Ou alors de temps en temps on se croise en promo.
Ou en festival.
Fait, voilà, mais avoir un ami acteur, en fait c'est très compliqué parce qu'on se voit jamais. Et là on a réussi à prendre un moment de vie, on a tourné aussi dans des conditions très très compliquées parce qu'on a eu vraiment un temps épouvantable. Mais Guillaume a été un patron exceptionnel, vraiment exceptionnel.
Bon, bah ça aussi, hein. On sera évidemment au rendez-vous. Vous restez à mes côtés, José Garcia. Dans un instant, on va parler des films de votre vie.
Oh là.
À tout de suite sur Europe 1.
17h, 18h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être avec nous. C'est la suite de Clap et je suis toujours en compagnie de José Garcia. Tout va bien ?
Très, très bien.
Alors, je rappelle, José, que vous serez à l'affiche du Torrent d'Anne Leny aux côtés d'André Dussolier le 30 novembre au cinéma. Il faut absolument aller voir ce film, un thriller, un scénario original aussi. Ça fait plaisir. Voilà, on sait écrire de bons films français.
Absolument, oui. Et les tournées aussi, parce que c'est pas évident. Mais c'est vrai que la politesse est la clé d'un très bon film. C'est d'abord un très, très bon scénario, très travaillé. Parce qu'à partir du moment où on a un bon scénario, généralement, la réalisation suit sans problème.
C'est vrai. Et souvent, sur ce genre du thriller, c'est plutôt des adaptations. Là, non, vraiment. Anne Leny, elle a écrit ce scénario. Et je disais tout à l'heure, ce tour de force, hein, de tout dire dès le départ, mais de tenir le spectateur en haleine. Moi, j'adore de jouer sur l'ambiance et sur les émotions et sur la complexité des personnages. Alors, en parlant de bon cinéma, on a envie d'en savoir plus, hein, sur tous les films qui vous ont bercé ou inspiré. Si je vous demande votre première grande émotion au cinéma, José Garcia ?
Alors, c'est une première grande émotion, mais c'est la première grande gifle au cinéma. J'allais pas beaucoup au cinéma, en fait, parce que j'avais pas les moyens. Et dans les grandes émotions, si vous voulez, je suis allé à l'âge de 13 ans. Quand j'étais tout petit, j'allais tout le temps au cinéma. Mes parents m'emmenaient dans les cinémas de quartier. J'ai pas le souvenir. Mais le grand moment de cinéma, c'est que dans la même journée, j'avais vu Frankenstein Junior de Mel Brooks et Les Vacances de Monsieur Hulot. Ça, c'est la première grande baffe. Et j'ai eu un moment d'émotion démente parce que, si vous voulez, nous, les effets spéciaux, on savait pas ce que c'était à mon époque. Et quand j'ai vu La Guerre des Étoiles, la première fois que j'ai vu La Guerre des Étoiles, je dois dire que pour nous, c'était un moment. C'était un monde qui s'ouvrait, qui était complètement... Oui. Voilà. Et à partir de là, ça a été des années super pop parce que c'était une nouvelle ère de cinéma. Voilà.
Mais ça a vraiment ouvert la voie après à toute une génération de films de science-fiction, et c'est effectivement toute cette époque avec le démarrage de La Guerre des Étoiles, hein, c'est le premier film de la saga Star Wars.
Et puis c'est l'imaginaire, c'est ça qui était dément, c'est qu'on n'avait pas du tout de référence, même si moi je connaissais bien les comics et tout ça, ça sortait complètement du lot. Et la première image en tant qu'ado, ah, c'est de voir La Guerre des Étoiles. Si, il y avait aussi La Fièvre du Samedi Soir, mais là, c'était pour faire la crâneuse en bois.
Quand vous reproduisiez la chorégraphie.
Ah bah, évidemment, je la dansais, c'était pile poil à mon époque. Je peux vous dire qu'on avait la banane, on savait faire toutes les petites danses. Oh.
Et votre meilleur souvenir de cinéma, alors ?
Meilleur souvenir de cinéma, Out of Africa, voilà.
Oui, Out of Africa, magnifique.
Qui est mon film, voilà, qui m'a bouleversé. Et puis j'ai d'autres films comme ça, qui sont des documentaires. Il y en a un qui m'a vraiment changé la vie. c'est le documentaire sur Chet Baker qui s'appelle Let's Get Lost.
Oui, c'est ça, parce que je vous ai demandé, un film qui a changé votre vie, et je me demandais si c'était bien celui-là.
Ouais, c'est
sur Chet Baker.
Ouais.
Pourquoi ?
Écoutez, pendant 2 ans après, je suis rentré dans le jazz. Ma vie est rentrée, je suis devenu jazzman, quoi. Voilà.
Ah.
Ouais, j'ai commencé. Alors, j'ai pas pris une trompette, j'ai pris une clarinette. Mais ça m'a complètement bouleversé. Et c'est un documentaire qui me bouleverse parce qu'on parle d'un type qui est bourré d'addiction. Et on voit ce type en train de jouer, qui est beau comme un dieu et qui joue comme un dieu. Et puis, il y a ce que cet homme fait autour de lui comme dégâts. Et c'est le point de vue de tous ces gens qui le connaissent et la manière dont ils parlent de lui, même avec de l'amour. Et je trouve que ça caractérise très bien ce que peut être un artiste. Voilà.
Oui, c'est vrai. Complètement. C'est difficile d'être un artiste. Vous le vivez comment, d'ailleurs, votre métier ?
Oula, bah comme tous les artistes. Vous savez que beaucoup de... Moi, j'ai une politesse, c'est toujours de faire bonne figure. Mais non, on le vit de manière très, très forte, très intense, très bouleversée, beaucoup de doutes. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'humiliations, beaucoup de choses comme ça qui nous remplissent. Mais tous les acteurs, toutes les actrices, tous les peintres, les musiciens, tout le monde.
Vous êtes vraiment sur le devant, c'est votre image qui est engagée. Les gens s'approprient ce que vous êtes aussi, c'est ça qui peut être violent.
Et quand vous êtes rejeté tout entier. C'est-à-dire qu'un peintre, lui, c'est son tableau. Mais à travers lui, évidemment, c'est son cœur qu'il donne. Nous, en fait, c'est notre image, donc c'est encore plus dur, quoi.
On en parle souvent pour les femmes, mais c'est vrai, on a moins d'hommes qui se confient sur ça, sur la difficulté de vivre ce métier.
Oh, mais tout le monde, de toute façon, je connais pas... Vous savez, on a toujours une image. Aujourd'hui, on est dans la représentation du bonheur. C'est-à-dire que...
Que vous faites très bien, José Garcia.
Mais bien sûr, mais toujours un petit sourire, un côté Instagram. J'avais démarré Instagram avant l'heure, mais derrière, dès que la photo s'arrête, il y a le vrai bonheur.
Il y a la réalité, il y a la vie. Ouais. La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez entouré de mariachi. C'était très sympa, c'était à l'Alpe d'Huez.
Toujours, voilà.
C'était très festif.
Absolument. On va entamer une très très grosse tournée au
c'est
printemps.
C'est vrai ?
Ouais. Ah oui, il y a la nouvelle cuvée qui arrive, magnums de José Garcia. Autant vous dire qu'on va abreuver tous vos petits gosiers assoiffés.
Mais là, c'est parfait, c'est presque l'heure de l'apéro. Il est 17h30 et des poussières, donc c'est nickel. Si je vous demande un film qui vous fait rire ?
Ah, je crois que dans le genre débile, mais tellement bien fait et tellement improbable, j'adore Will Ferrell. Donc il y a Les Rois du Patin et Step Brothers.
Oui.
Step Brothers, parce que franchement, j'aurais eu ce genre de scénario entre les mains, j'y serais pas allé parce que c'est
jumeaux,
trop...
Jumeaux, mais pas trop. Hein,
jumeaux, mais pas trop, c'est-à-dire c'est des hommes de 40 ans qui sont encore chez leurs parents, qui se conduisent comme des gamins de 8 ans. Et les mecs sont allés quand même dedans et ils y croient. Il faut une concentration de dingue pour faire ça.
C'est vrai.
On finit par y croire.
Et le film qui vous fait pleurer à chaque fois ?
Dans un des plus beaux, parce que je trouve que c'est le plus beau rôle de Mastroianni, c'est Les Yeux Noirs de Mikhalkov.
Ah voilà. Oui, et ça vous fait pleurer ?
Ouais, c'est magnifique.
Vous pleurez facilement au cinéma ?
Énormément, ouais.
Est-ce qu'il y a un film que vous conseillez à un enfant ?
Oh oui, tous les Princes et Princesses, les Miyazaki.
Voilà.
Moi je continue à regarder Miyazaki parce que dans l'univers c'est formidable.
C'est vrai.
Un petit penchant pour Porco Rosso parce que c'est un peu moi.
Non, non. C'est vrai.
Non, mais j'adore l'aviation, c'est pour ça que j'adore.
Une réplique culte ?
Oh, il y en a plein. Il fait, comment je vais le reconnaître ton messager ? Il fait, un grand con, l'air bête. Ah, dis donc, ça corps l'air. Oui, les grands cons. Ouais, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il serait maître étalon à Sèvres.
J'adore.
Voilà, c'est Audiard.
C'est Audiard.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur ?
Non.
Un voleur, de temps en temps, ça se repose.
Bon, Audiard, il aimait pas les cons.
Il a bien raison.
Alors là, il y a du singe en hiver, tonton flingueur, il y a du pacha aussi, dans notre petit melting pot de répliques. Donc oui, ce sont vos répliques préférées.
Oh non, il y en a plein, mais Audiard, c'est vrai qu'il y a en plus la poésie, puis il y a le langage parlé, le phrasé, et puis la référence. Parce que faut savoir que tous les grands textes, même nous, quand on était à Canal, ils étaient écrits par des gens qui avaient fait Cagne Hippocagne, qui avaient 7 ans d'études. Et c'est ça qui fait la différence. C'est qu'on a beau écrire des choses qui font rire et qui sont bêtes, il y a toujours une grande référence derrière et ça donne toujours un peu de culture, même si on est dans un troquet.
José Garcia, si vous ne deviez garder qu'un seul film de votre filmographie, c'est pas évident.
Oui, c'est très difficile. Je vous dirais que celui que j'ai trouvé le plus réussi, parce que c'est exactement ce que j'avais lu, c'est Le Couperet de Costa Gavras. Ouais. qui mais j'en ai plein, j'en ai plein que j'adore. Et puis il y en a certains qui sont pris des bides monumentaux, mais qui restent comme les plus. Sa Majesté Mineure restera pour moi le plus grand souvenir de ma vie en difficulté d'acteur à faire. Et vraiment une aventure absolument démente. Voilà. Et c'est le gros taquet aussi.
Mi-homme, mi-homme, mi-cheval.
Mi-cochon.
Mi-cochon. Ouais, 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 ouais. C'est ça.
C'est Vincent Cassel qui était.
Ah oui, qui était mi-homme, mi-cheval.
Ah, vous avez souvenir.
Ah, parce qu'il a marqué celui-là. C'est vrai qu'il a marqué les esprits. Vous avez rigolé pendant le tournage au moins.
C'était dément. C'était dément. J'écrirai un bouquin de ces quatre dessus parce que franchement, ce qu'on a dû faire physiquement, c'était improbable.
Le couperet, vous aviez été nommé au César et c'est l'année où Michel Bouquet l'a eu pour Le Promeneur du Champ de Mars.
Écoutez, je laisse avec plaisir.
Vous l'auriez mérité aussi, mais c'est vrai que pour Michel Bouquet, ça nous fait plaisir. Et La Vérité, si je mens aussi,
bien
forcément,
sûr.
Ça a marqué votre carrière.
Bien sûr. C'est ça, je dois tout à
Serge Benhamou.
Ouais, je dois tout à ce film. Oui.
À la base, vous ne deviez pas faire ce rôle ?
Non, je devais faire le rôle de
Eli
Kaku, ouais, Rafi Stilmod. Mais j'ai osé décrocher mon téléphone et demander à Thomas Gilou. J'ai dit, écoute, celui-là, il est moins écrit, mais qu'est-ce que je l'aime ? Il m'a dit, ok, prends-le, donc voilà.
Et quelle histoire ?
Ouais.
Attends, tu veux que je la branche ?
Me laisse tomber, attends, il peut pas, je te jure.
Non, sans déconner, attends, je vais l'éclater sur ma vie, je suis un marteau pilon, là, je vais le casser, là.
Attends, je lui branche ou pas ?
Allez,
bah
attention. Tu vas dire avec franchement, ok ? Tu la chauffes à donf, sinon c'est niqué.
Ok.
D'accord ? Allô ? Ouais, bouge pas une seconde. Allô ? Cher copain de Dove, il m'a dit que t'aurais rien quand un petit 5 à 7 avec un mec super bien monté. Ça tombe bien, je suis un gros gros chaud de la bite. Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière et puis je vais te faire bouffer ton polochon. T'entends ?
Serge ? C'est toi mon fils ?
Maman ?
Oh putain, mon top, tu l'es !
Qu'est-ce qu'on aime ce film.
Ah, c'est une petite impro, ouais. On a fait trois.
C'était une impro, ça là.
Ouais.
C'est génial.
Ouais. Non, on a
c'est-à-dire
fait.
C'est-à-dire qu'il vous a dit, tu fais un canular, tu fais ce que tu veux.
Non, on avait préparé tout le truc, on est monté. Et puis à un moment, il y avait une partie de texte qui était écrite, et puis il a fallu rentrer dans la vulgarité derrière. Donc voilà, c'est là qu'on a pris le dessus. Mais il y a beaucoup de moments comme ça qui sont pris et qui sont épouvantables du point de vue. Comment dire, élégance,
oui.
mais voilà, qui marque les gens. Ouais.
J'allais dire, est-ce qu'on pourrait faire ça aujourd'hui?
Bien sûr, on peut tout faire.
On
aujourd'hui.
Peut encore le faire.
Mais c'est juste une question.
Espérons
de...
Espérons qu'on puisse encore le faire.
Bien sûr, non, mais c'est sûr. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais enlever un mythe qui est tout le temps le même. Quand on faisait des personnages avec Antoine Decaune pendant des années, on me dit à chaque fois, oh là là, c'était la belle époque. On avait autant de violence, de lettres négatives, de trucs et tout, sauf que les gens n'avaient pas Internet. Mais on recevait ce qu'on appelle le courrier des lecteurs, qui a toujours existé. Simplement qu'on avait des patrons qui avaient le courage de les évincer et de continuer à avancer. Voilà.
José Garcia, pour terminer, votre bande originale de film préférée ?
Oh, j'en ai plein, évidemment, mais il était une fois l'Amérique. Voilà, c'est ma préférée.
Ah oui, et Ennio Morricone.
Et à chaque fois, on me remet celle-là, qui est mon morceau, que je déteste.
C'est pas vrai.
Ouais, c'est Amapola, c'est les autres. Mais c'est vrai que quand on a le morceau d'une fois l'Amérique, il y a toujours la fête de Pan. Et à chaque fois, je suis très déçu.
Bah mince, on a la musique du professionnel. On
non,
a une autre.
Non, c'est,
on, autre...
Non. C'est Royal Canin. Ah bah... C'est
vous
Royal
avez dit
Canin.
Ennio Morricone. Ah, vous avez dit Ennio Morricone dans toute son œuvre. Quel serait le titre du film de votre vie ?
Vivre. Life.
À 100% ou à 300% même.
À 1000.
C'est ce que vous faites.
C'est ce que je fais, ouais, dès le matin.
Bon, et c'est pour ça que vous nous faites rêver depuis tellement d'années. Merci beaucoup, José Garcia, d'avoir
Merci
été
beaucoup, Laurie.
Avec nous. Je rappelle la sortie du Torrent le 30 novembre. Alors là aussi, vous nous faites rêver, mais dans un autre registre. Hein, le registre du mensonge et de la manipulation. On aime bien votre petit côté obscur. Allez au cinéma le découvrir aux côtés d'André Dussolier. Dans un instant, Franck Vallière et Mehdi Omaïs vous diront tout ce qu'il faut savoir de l'actualité des sorties salles. A tout de suite sur Europe 1.
17h, 18h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes bien à l'écoute de Clap, merci d'être avec nous et c'est déjà la dernière partie de notre émission, notre journal des sorties. Alors au programme, cette semaine, on a rendez-vous avec la Tabac-Force de Quentin Dupieux, mais aussi avec la merveilleuse Emma Thompson qui redécouvre son corps et ses désirs. On parlera également du combat pour l'avortement de Laure Calamy, toujours exceptionnel, et du nouveau film de Christophe Honoré. Vincent Lacoste sera avec nous par téléphone pour en parler. Et eux aussi, ils sont autour de moi depuis le début de cette émission. Franck Vallière et Mehdi Omaïs, tout va bien ?
Très bien.
Alors on commence tout de suite par le box-office de la semaine. Et sans surprise, en tête, à
Black
votre avis ?
Black Panther, forcément.
Évidemment, Black Panther, hein, le blockbuster a totalisé 2 810 000 entrées et donc plus de 392 000 entrées cette semaine. Mais bon, Ça diminue quand même drôlement. Hein. Le bouche à oreille n'est pas si bon. Et effectivement, dans deux semaines.
Il va prendre le relais.
Donc dans deux semaines, ça sera plié. À la deuxième place, on en a parlé en première partie. Hein. Simone avec encore 200 000 tickets vendus en septième semaine.
Soit plus de 10% en septième semaine. Une progression comme ça, c'est hyper rare. Hein.
Ben, on est très contents.
Et ça veut dire que surtout que les films sortis la semaine dernière n'ont pas vraiment ravi des suffrages. Il est encore temps d'aller voir Les Femmes du Square. Très
oui,
bon film.
C'était le coup de cœur de Franck Vallière, qui est sorti il y a deux semaines, hein, Franck.
Oui.
Voilà, il n'a plus vraiment la notion du temps, hein, le pauvre. En troisième position, Les Couleurs de l'incendie de Clovis Cornillac, qui a passionné 130 000 personnes supplémentaires. Hein, il fait son petit chemin, 620 000 entrées. Et puis un mot quand même sur La Sortie des Miens de Roche Dizem, qu'on recevait il y a deux semaines et qui se hisse à la sixième place avec plus de 100 000 spectateurs en première semaine. Bon, voilà, on est très contents.
Ça fait plaisir.
Oui, ça fait plaisir. C'est un très joli film. Allez, on commence notre tour d'horizon parce qu'on a pas mal de choses à vous dire avec le nouveau film de Quentin Dupieux, Fumer fait tousser. En gros, c'est une bande de super-héros qui ressemble aux Power Rangers, mais ça s'appelle la Tabaforce et elle est composée d'un casting 5 étoiles. Gilles Lelouch, Vincent Lacoste, Anaïs de Moustier, Jean-Pascal Zadi et Oulaya Amamra, leur chef, qui est d'ailleurs doublé par Alain Chabat, les envoient en séminaire pour ressouder leur équipe et revenir beaucoup plus fort.
Bonjour les Tabaforce.
Bonjour, chef Didier.
J'ai pris la décision de vous envoyer en retraite quelques jours.
Une sorte de séminaire, j'imagine.
Vous pouvez appeler ça comme vous voulez.
Ok, d'accord, des vacances quoi. C'est génial.
J'ai attrapé un barracuda. Oh, le stress pour rien.
N'importe quoi.
J'en sais rien.
C'est en étant soudés que vous pourrez sauver le monde.
Bon, c'est bien barré comme d'habitude, hein. C'est du Quentin Dupieux.
J'adore, j'adore. Moi, les Quentin Dupieux, c'est comme des petits cadeaux de Noël que j'ouvre. En plus, on en a eu deux cette année avec Incroyable mais vrai. Là, c'est le deuxième.
Et il prépare le prochain pour le Festival de Cannes.
Mais c'est un fou, c'est un fou. Il est comme ça. Et puis, en fait, je ne supporte pas ceux qui disent qu'il ne fait pas du cinéma, que c'est de l'art, l'absurde, chez lui. Et il y a beaucoup plus de cinéma chez Quentin Dupieux que la moitié des cinéastes aujourd'hui en France. Il y a une science du plan, du cadrage. Et je comprends pourquoi tous les acteurs français veulent jouer avec lui. Moi, acteur, mais je ne le suis pas heureusement pour la France et le monde, mais si j'étais acteur, mais j'aurais adoré jouer dans ces films parce qu'encore une fois, c'est une invitation à partir vraiment en vrille, très loin, et là encore une fois, c'est les Tabaforce, un hommage à Bioman. Moi j'adorais Bioman quand j'étais gamin, donc j'étais super heureux de voir ces personnages-là avec des flashbacks, mais qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais toujours encore une fois, avec une générosité de l'absurde, moi qui me rend complètement dingue. Et mention spéciale pour le chef des Tabaforce qui est un rat libidineux qui bave. Moi, j'avais un fou rire au Festival de Cannes. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Et c'est campé par Alain Chabat. Et c'est un délice. Vous verrez cette bave verte, mais qui dégouline sur lui. C'est magique.
Et puis, il y a des guests. Hein, Adèle Exarchopoulos, le Palmacho, encore Benoît Poulvorde. On va écouter tout de suite vos réactions.
Pas du tout aimé du tout. Hein. Comparé à Mandibule, c'est vraiment très, très loin.
C'est totalement déjanté, mais avec Quentin Dupieux, il faut s'y attendre. Ça se regarde bien.
Il y a plusieurs histoires, mais inachevées. Donc, c'est très particulier. Mais je trouve que le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'il fait d'habitude.
C'est un moment un peu décalé. J'ai bien rigolé, donc vraiment sympa. C'était vraiment top.
Bon, ça fait rarement l'unanimité, Quentin Dupieux. Donc voilà, les critiques sont...
C'est bien le but.
...sont plutôt cohérentes. On continue avec un très joli film. Ça s'appelle Mes rendez-vous avec Léo, un film sur le désir féminin, sur l'acceptation de son corps après 60 ans. C'est un huis clos bourré de charme et de douceur. L'histoire, c'est celle de Nancy, jouée par Emma Thompson, une veuve et retraitée, qui se fait une folie et qui décide de se payer les services d'un escort boy.
C'est ton vrai nom, Léo Grandet ?
Toute ma vie, j'ai eu honte de mon corps.
Tu as un beau corps, si seulement tu pouvais le voir. Chacun a des besoins différents. Je ne juge aucun de mes clients, sauf si c'est des connards finis.
Tu es la seule aventure que je me sois accordée. Quel âge avait la personne la plus vieille avec qui vous l'avez fait ?
C'est 82 ans.
82 ? 82 ?
Nancy.
D'accord, je me sens un peu mieux.
Exceptionnel Emma Thompson dans ce film avec des scènes de nudité totale et très assumées. Hein.
C'est un acte politique. Il faut montrer le corps de ces femmes-là. Alors, il ne s'agit pas d'un plaisir coupable d'hétérosexuel que vous décrivez là, mais il faut absolument qu'on cesse de montrer uniquement des corps nus de femmes de 25 ans. C'est complètement débile. Et Emma Thompson a considéré la chose comme un aspect très, très politique. Le décor, ça ressemble pour le décor, encore une fois, à une nudité en ville de Michel Deville, si ce n'est que là, la relation est tarifée. Nous avons donc deux personnes que tout sépare. Une femme victime du patriarcat, et aussi accessoirement qui n'a connu qu'un seul homme, un peine à jouir qui ne l'a jamais rendue heureuse, et de l'autre côté un homme totalement libre, libre de sa sexualité et de pouvoir en faire profession, car ce sont les temps qui nous y autorisent. Et cette rencontre-là est délicieuse, mais délicieuse de bout en bout. Il y a des climax de discussion. On pourrait se dire, oh là là, tout un film dans une chambre d'hôtel. On va vite se tourner en rond. Et en fait, non, la réalisation est impeccable, douce, chatoyante. On est bien avec eux. Vraiment, ce film est exceptionnellement plaisant à voir.
Moi, je partage ton avis. C'est-à-dire que dès le début, il y a quelque chose de magique qui s'opère, c'est l'alchimie. Sans alchimie entre eux, il ne se passe rien. Mmh. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a une chorégraphie à la fois des corps dans cet espace hyper restreint qui est la chambre d'hôtel, mais on est enfermé dans trois bulles. La bulle de l'hôtel, la bulle de l'intime et la bulle de ce personnage, Emma Thompson, pour laquelle le rôle a été écrit. Et là, elle est complètement prodigieuse et Daryl McCormack qui lui donne la réplique. Là aussi, oui, il a l'air sûr de lui, mais il a plein de failles. Et donc, comme le chapitrage chez Tarantino, là, ça va être en fait chapitré selon les rendez-vous. Et graduellement, vous allez voir que dans cet espace qui va devenir presque familier pour nous au bout du film, parce qu'on sait même où sont placées les bouteilles, où est l'oreiller, où est le coussin, on est complètement avec eux. Mais ça, c'est vraiment une vraie expérience immersive. On pourrait penser que parce que c'est un espace clos, il n'y a pas de mise en scène ou il y a moins de mise en scène. Ce n'est pas du théâtre filmé. C'est vraiment du cinéma et de la direction d'acteurs, une précision métronomique des dialogues. Moi, j'ai vraiment adoré ça. Et encore une fois, acte politique, effectivement, le corps de la femme, elle va jusqu'au bout, Sophie Hyde, de son propos. Et c'est pas hypocrite, c'est pas faux cul, ça va jusqu'au bout et ça, c'est rare.
On écoute vos réactions.
Très émouvant, c'est périlleux, touchant, c'est incroyable. Et je trouve que ça fait du bien de voir une femme nue de cet âge-là. Et elle est super belle.
J'ai bien aimé parce que c'est quand même assez rare de voir un film avec une femme de l'âge d'Emma Thompson qui parle de choses qui concernent énormément de femmes. Et Daryl McCormack, il est juste sublime, donc très bonne surprise.
Dans l'actualité du cinéma, la sortie du nouveau film de Christophe Honoré, Le lycéen, avec Paul Kircher, Juliette Binoche ou encore Vincent Lacoste qui est avec nous par téléphone. Bonjour Vincent.
Bonjour, bonjour.
Alors Vincent, dans Le lycéen, vous jouez donc le frère de Lucas, un jeune homme de 17 ans dont la vie va basculer suite au décès soudain de son père, donc de votre père. C'est un film sur le deuil, inspiré du vécu de Christophe Honoré qui en fait un film lumineux, c'est toute sa force. Déjà, je voudrais savoir comment est-ce qu'il vous a proposé et parlé de ce projet ?
Il m'a parlé de ce projet. Alors moi, je savais qu'il faisait une pièce aussi qui s'appelle Le ciel de Nantes, oui, qui est sur sa famille. Et il m'a dit qu'il faisait un film aussi, parce qu'à la base, en fait, sa pièce Le ciel de Nantes, il voulait en faire un film et il a jamais réussi à le faire. Donc, il a fait une pièce sur sa famille et il a quand même fait un film qui est inspiré aussi de sa vie. Mais bon, de manière plus dramaturgique, avec une vraie histoire, c'est pas exactement sa vie, quoi. Et centré surtout sur le personnage de Paul Kircher, Lucas, qui est un peu un récit un peu initiatique d'un jeune garçon comme ça qui perd son père et comment il va passer à l'âge adulte, en fait, par ce deuil, quoi. Donc c'est comme ça qu'il m'en a parlé, en fait. Et après, tout simplement, il m'a envoyé le scénario. On se connaît bien maintenant.
Ben oui,
donc,
c'est votre troisième collaboration avec Christophe.
Ouais, voilà, c'est le troisième film qu'on fait ensemble. Donc bon, il a pas besoin de me présenter vraiment les projets avant de me les envoyer. Mais de toute façon, moi, je suis totalement fan de ce qu'il fait. Donc honnêtement, j'étais surtout très heureux de recevoir un scénario de sa part.
Et le film est très juste. Je disais, ça parle du deuil, mais effectivement, ça parle aussi de renaissance. Ça parle de ce jeune garçon qui se découvre, qui apprend aussi à affirmer ce qu'il est. Et en même temps, ça parle de la famille que vous composez avec Juliette Binoche, qui joue votre mère à tous les deux. Comment est-ce que vous l'avez, sur le tournage, composé cette famille ?
Assez simplement, on s'est bien entendu, on tournait en Savoie. Donc voilà, on était un mois là-bas, ça nous a rapprochés, on a mangé de la fondue. Juliette Binoche nous a même cuisiné une potée un soir. Très bonne potée.
C'est vrai ? Donc elle vous a un peu maternée, elle a pris soin de vous.
Exactement. Exactement.
Est-ce que vous vous souvenez de vos 17 ans, Vincent Lacoste, puisque c'est un film qui parle aussi de ça, de la jeunesse ?
Oh là non, je les ai oubliés, moi.
Mais pourtant, c'était il n'y a pas
si
longtemps.
J'ai tout oublié. Non. Si, à 17 ans, moi, je faisais... Je tournais Astérix. Je faisais des films déjà, en fait. J'étais en terminale et je tournais Astérix en même temps. Et c'est le moment où j'ai eu le bac. Voilà, c'était très sympa.
Une belle année. Eh bien, écoutez, merci. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle donc, Vincent Lacoste, que vous serez à l'affiche du film de Christophe Honoré, Le lycéen, aux côtés de Paul Kircher et Juliette Binoche. Vous êtes à l'affiche, pardon, un film touchant sur le deuil et sur la construction de soi, qu'il faut absolument aller voir de toute façon. Christophe Honoré, on y va, en fait. Voilà. On se pose pas de questions.
Exactement. Je suis bien d'accord avec ça. En tout cas, moi, j'y vais à chaque fois.
Mais bah vous avez
bien
raison.
Même quand je suis pas dedans.
Et de toute façon, Vincent Lacoste, on y va aussi. Bon, bah, ça fait beaucoup de raisons d'aller voir ce film. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
À bientôt. Et maintenant, on parle de l'actrice incontournable de cette année, bien sûr. Lorca Lamy, qu'on aime tellement, à l'affiche d'Annie Colère de Blandine Lenoir. Un film important hein, qui parle de l'avortement. Elle joue le rôle d'Annie, enceinte d'un troisième enfant qu'elle ne veut pas. Elle va être contrainte d'avorter illégalement, puisque l'histoire se passe en France dans les années 70, peu avant la loi Veil.
Jusque-là, c'est les hommes qui ont le pouvoir de décider de nous mettre enceintes ou non. Alors si c'est nous, les femmes, qui pouvons choisir, et c'est la révolution.
Jamais elles retrouveront la solidarité qu'on partage, toute cette tendresse.
On peut pas s'occuper de toutes les femmes. Je vous rappelle qu'il y a quand même plus de 200 antennes du MLAC sur tout le territoire.
On peut pas les empêcher d'avorter. Ils vont être obligés de s'y coller et de la changer, cette putain de loi.
Mehdi ?
Moi, j'aimerais profiter de ce temps d'antenne pour ouvrir le fan club international de Lorca Lamy.
Allez, je viens, je m'inscris.
Je l'aime d'amour, après à l'origine du mal et à temps plein. Troisième film pour cette année où elle a cassé le cinéma français en deux, faut le dire. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film de Blandine Lenoir, c'est qu'il part à contre-courant de tous les films qui ont déjà été faits sur l'avortement, même si L'événement est un grand film. Je pense à Vera Drake, je pense à Une affaire de femme de Claude Chabrol. Ce sont des films qui sont quand même assez plombants. Là, c'est un film qui va vers la lumière. Même si au début c'est un petit peu douloureux, elle va apprendre, Lorca Lamy, à travers son personnage, la sororité, l'entraide. Et voilà, c'est un film qui est vraiment dans le partage, dans la cohésion, dans le collectif, où tous les personnages secondaires comptent autour d'elle, ce qui est assez rare, elle phagocyte pas l'espace. Et puis voilà, il y a cette phrase moi, que j'ai retenue et que je trouve sublime, c'est politique la tendresse.
Ouais, c'est beau. Franck, rapidement.
Il me manque un petit peu de cinéma là-dedans. C'est-à-dire que l'événement d'Audrey Diwan était vraiment très personnalisé en termes de scénographie, de mise en scène, etc. Et là, on est encore une fois dans un film de vulgarisation. C'est-à-dire que l'avantage est que c'est très scolaire. Donc, du coup, on aura pris connaissance qu'il y a 50 ans, c'était presque le Moyen-Âge pour les femmes qui devaient avoir affaire aux faiseuses d'ange jusqu'à ce que des femmes comme Annie Colère donc, s'en mêlent. Donc, ça manque pour moi un tout petit peu de cinéma, mais ça permet effectivement de retrouver Lorca Lamy dans le rôle de la girl next door, comme d'habitude, qui en chie. Littéralement, qui a un problème, comme c'était déjà le cas dans Un plein temps, Une femme du monde, ou même Antoinette dans Les Cévennes. La jeune femme moderne qui affronte tous les petits défis du quotidien.
Mais elle le fait tellement bien. Merci à tous les deux, Mehdi Omaïs et Franck Vallière. Merci à José Garcia qui était mon invité cette semaine et qui est à l'affiche hein, en ce moment du Torrent aux côtés d'André Dussolier. C'est déjà la fin de ce clap. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Pierre de Villeneuve pour Europe Soir. Et en attendant, évidemment, on vous le dit chaque semaine, continuez d'aller au cinéma. Très bon week-end à vous à l'écoute d'Europe 1.